Et avec Annie Boiland, notre spécialiste en ressources humaines, la présidente du réseau RH, on va parler des spécificités d'une convention collective fermée. Salut Annie!
Bonjour Valérie!
Tu as été inspirée par ce qui se passe au port de Montréal?
Oui, c'est ça. Puisque, bon, on entend beaucoup parler, la grève des heures supplémentaires, une grève illimitée qui se sont votées les débardeurs du port de Montréal. C'est pas sans incidence sur nous tous, puisque, évidemment, Valérie, devine ce qui se trouve présentement dans les conteneurs du port de Montréal.
Ben oui, des marchandises, évidemment.
Des marchandises et pas n'importe lesquelles. Nos cadeaux de Noël.
Ah oui.
C'est ça. Ainsi que les grains des agriculteurs qui sont destinés à l'exportation. C'est principalement ce qui est dans le port présentement. Et donc, cette grève des heures de travail supplémentaires, ben, ça a une incidence sur tout le monde. Donc, d'où mon inspiration pour ce sujet, les conventions collectives des différents types, notamment une convention collective fermée.
C'est quoi ça, une convention collective fermée?
Oui. Il y a plein de monde qui font comme « Oh! » Plein de gens qui sont des employés syndiqués qui ont une convention collective, puis avaient l'impression ben, que tout le monde avait des conventions collectives comme les leurs, là, sans dire que les clauses sont identiques, que c'est les mêmes concepts. Ce que monsieur, madame, tout le monde connaît comme convention collective, dans le jargon des gens en relations industrielles, on appelle ça une convention collective ordinaire. Une convention collective fermée, ça vient toucher l'embauche des nouveaux employés. Contrairement à un contexte standard où c'est l'employeur qui décide l'embauche des employés, dans une convention collective fermée, c'est le syndicat seul qui décide de l'embauche des prochains employés.
Oh, c'est assez important comme nuance.
Oui, c'est très important parce que ça a des incidences. C'est certain que ça permet au syndicat d'abord de perpétuer, parce qu'il embauche sur des mêmes croyances, des mêmes postures, des mêmes positionnements. Donc, on vient perpétuer les mêmes contextes. C'est aussi une façon pour le syndicat de s'enrichir. Du moins, on va le mettre au conditionnel, parce qu'il y a de nombreuses rumeurs qui expliquent que le syndicat a vendu des places sur la liste des employés. C'est bien payé, c'est de belles conditions, travailler comme débardeur. Donc, il vend les places à des employés potentiels pour être sur cette liste d'embauche.
Mmh.
On m'a parlé de nourrissons, hein, de bébés dont les parents ont tout de suite déboursé pour être sur cette liste.
Non!
Toujours est-il, dans un souci de transparence, dans le cas du port de Montréal, c'est pas une convention collective, là, je dirais, standard, fermée, dans le sens où il y a eu des compromis qui ont été faits dans les négociations passées. Puis maintenant, la liste d'embauche, elle est constituée 50% par des noms qui sont suggérés par le syndicat et 50% par des noms suggérés par l'employeur. Maintenant, c'est 50-50. Mais ça demeure que ça a une incidence sur le milieu de travail parce qu'on embauche le même type de personnes, si on veut. Là.
Oui, je comprends. Donc, puis, ben là, est-ce que je peux oser dire quelles sont bonnes les conditions de travail actuelles des débardeurs?
Je te l'ai décrit, Valérie, tu jugeras si c'est de bonnes conditions. Donc, ce sont les débardeurs, c'est 375 personnes qui sont protégées par le syndicat des débardeurs du SPSP à Montréal. En moyenne, ils ont une rémunération globale de 155 000 $ par année. Il n'y a pas de formation particulière requise pour ces gens-là. Ceux qui font du temps supplémentaire vont chercher jusqu'à 300 000 $ par année. Il ne faut pas avoir en tête les vieilles images que nous avons vues dans le passé, il y a plusieurs années, où des débardeurs, c'était un emploi qui était difficile, qui était dangereux. On imaginait les gens dans le fond des cales des bateaux. En 2024, ce sont des gens qui manipulent des machineries. Donc, ce sont des machines électroniques hein, qui déplacent des conteneurs. De plus, ils ont une sécurité d'emploi, une sécurité de rémunération parce que, et ça, c'est une spécificité du port de Montréal parmi les autres ports dans le monde, à Montréal, ils sont assurés d'être rémunérés, même si l'achalandage diminue. Donc, sans égard à la quantité de conteneurs puis de chiffres de travail qu'ils vont faire, ils vont recevoir leur rémunération. Donc, je ne sais pas si tu conclus que ce sont de belles conditions ou non.
Bon, ça a l'air pas pire, mais encore faut-il être heureux dans ce qu'on fait, Annie.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que le taux de roulement est assez bas au port de Montréal, parce que je pense que ça confirme que la moyenne des gens vont dire que ce sont des belles conditions.
C'est quoi les impacts pour l'économie québécoise ou canadienne lors d'un conflit de travail au port de Montréal?
Oui, alors là, on se dit, oui, mais OK, 375 personnes qui détiennent dans leurs mains beaucoup, beaucoup de pouvoir sur notre économie. On dit que c'est 150 milliards de dollars par année qui transigent par le port de Montréal. Et c'est principalement, il ne faut pas penser que ce sont des grosses entreprises, ce sont les importations et exportations de nos PME en tête de liste. Un quart des conteneurs qui transigent par le Canada passerait par le port de Montréal.
Mm.
une journée de grève de ces 375 personnes coûte au Québec 25 millions. Donc, ça coûte 25 millions à l'économie québécoise chacune de ces journées de grève. Valérie, pas les grèves actuelles des heures supplémentaires. Mais là, au cours des 5 dernières années, il y a eu 2 grèves complètes, là, pas des heures supplémentaires. Et chacune de ces journées, 25 millions. Des gens diront, ben pourquoi? Pourquoi un si gros chiffre? D'abord, il y a des conteneurs qui contiennent des denrées périssables. Donc, une fois que la denrée est périe, elle n'a plus de valeur. Ça, c'est la première chose. C'est tout un écosystème aussi. Hein. Quand le port est en grève, il y a moins de camions qui se déplacent, moins de camionneurs qui sont payés, moins d'entreprises qui font de la production. C'est tout ça qui s'enchaîne, qui explique ces grands chiffres.
Puis en terminant, là, qu'est-ce qui pourrait être fait là, si on voulait faire évoluer la législation qui encadre le droit du travail?
Ouais, si on se disait, hey, nos cadeaux de Noël, là, on peut-tu faire quelque chose pour que ces 350 personnes qui gagnent au moins 155 000 par année puissent nous permettre de transiger nos cadeaux de Noël fluidement? Alors, c'est sûr que oui. C'est une question de législation, donc de courage politique. Si on voulait faire évoluer les choses, nos politiciens pourraient regarder d'abord du côté du Code du travail, parce que déjà des ajustements pourraient être faits, bien que, Valérie, c'est un gros morceau, là. C'est un gros morceau à avaler. Mais au niveau de l'encadrement des services essentiels, là, il y a quelque chose qui pourrait être fait. Le Code du travail canadien prévoit déjà que quand les services sont reliés à la santé ou la sécurité des Canadiens, ils peuvent être protégés par l'encadrement des services essentiels. Au port de Montréal, 35 % des conteneurs contiennent soit des aliments, soit des médicaments. Donc, on est capable de relier ça à la santé et la sécurité des Canadiens. Il y a déjà eu un jugement sur la question. Il a été convenu que ce n'était pas des services essentiels, bien que continuellement, dans l'actualité, ça revient, ça refait surface. Si nos législateurs et nos gouvernements voulaient faire preuve de courage, ils pourraient garder en tête qu'il y a déjà présentement un précédent. Il y a un quai au port de Montréal, le quai Baker Bike, qui est déjà considéré service essentiel. Donc, on pourrait extensionner ça pour d'autres services. Puis ainsi, réduire un petit peu le pouvoir de ces 375 personnes puis redonner un petit peu plus peut-être de fluidité dans l'ensemble de notre économie.
Mais on va se croiser les doigts pour que tout le monde sorte de ça heureux. Annie Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Valérie.